Bonjour Nathalie Bajos.
Bonjour.
L'épidémie de coronavirus a accentué les inégalités sociales en France. C'est ce que révèle une enquête que vous avez réalisée avec l'anthropologue et démographe François Errant. Qu'est-ce que vous vouliez savoir en lançant cette étude ?
Alors, c'est une étude qui a la grande spécificité d'allier une perspective sociologique et une perspective épidémiologique. En fait, l'étude a été réalisée donc avec Josiane Varjavski, qui est médecin épidémiologiste à l'INSERM. Et l'idée qu'on avait en lançant cette grande étude, c'était de pouvoir documenter, objectiver la réalité des personnes qui pouvaient être confrontées à l'épidémie en France, aussi bien la manière dont leurs conditions de vie pouvaient favoriser l'exposition au virus, et en même temps comment l'épidémie avait pu avoir un effet sur les situations d'emploi et sur les situations financières. Et cette enquête a aussi une caractéristique très importante, c'est qu'elle permet d'établir ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire tout simplement le pourcentage de personnes qui ont été en contact avec le virus, avec une description très fine au niveau régional et départemental. Sans rentrer dans les détails techniques, c'est une enquête exceptionnelle du point de vue de la qualité de l'échantillon.
Et de la rapidité du travail aussi.
Mais surtout de la qualité de l'échantillon qui a été tiré au sort par l'INSEE et qui nous a permis d'interroger un échantillon de 130 000 personnes qui reflète la diversité de toutes les populations qui vivent en France.
Alors, est-ce qu'on peut résumer l'une des idées forces de cette étude en disant que les catégories sociales et professionnelles les moins avantagées ont plus souffert de la crise, bien qu'elle n'ait pas forcément été plus touchée par la maladie elle-même?
Alors oui, on peut tout à fait dire, et c'est ce que montre l'enquête, hein, c'est qu'effectivement les catégories populaires, les moins aisées financièrement, étaient plus frappées, aussi bien dans leur situation d'emploi que dans leur situation financière et donc dans leur vie quotidienne, par toutes les mesures qui ont été prises pour lutter contre cette épidémie. En revanche, ce que montrent aussi les travaux que nous menons, c'est que finalement, on a eu en France, et sans doute dans d'autres pays d'ailleurs, un décalage du profil social de l'épidémie. C'est-à-dire qu'avant le confinement, c'était surtout les catégories sociales dites favorisées, les cadres supérieurs, qui étaient le plus touchés parce que des modes de vie qui se prêtent davantage à des sorties, donc à des interactions sociales. Quand le confinement est arrivé, il a permis de réduire de manière drastique le nombre de contaminations, mais il a été beaucoup plus bénéfique aux catégories sociales favorisées qu'aux catégories
qui, elles, ont pu être en télétravail.
Un seul chiffre, 50% des cadres sont passés en télétravail exclusif pendant le confinement, contre 1% pour les catégories les plus populaires.
1% des ouvriers.
Oui. Voilà.
Alors, il y a tout de même un résultat étonnant, c'est que on apprend dans votre étude que les niveaux de vie les plus touchés sont aux deux extrêmes. Ce sont les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, avec même d'ailleurs un tout petit peu plus de malades chez les 10% les plus riches.
Alors ça renvoie exactement à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que il y a une évolution temporelle du profil social de l'épidémie. Donc le fait que les deux extrémités de l'échelle des ressources soient les plus touchées, ça renvoie au fait qu'avant le confinement, c'était surtout les catégories supérieures qui étaient touchées, et après les catégories populaires, mais évidemment les personnes qui ont dû aller travailler pendant le confinement. Une catégorie extrêmement touchée, ce sont, j'ai envie de dire, logiquement les professionnels de santé, qu'il s'agisse des médecins, des infirmiers, infirmières ou des aides-soignants. On a près de 10% de ces populations-là qui ont été touchées. Quant aux autres populations essentielles, les caissières, les livreurs, les conducteurs de bus, etc.
Les professions essentielles.
Ces populations-là, à ce jour, on n'a pas suffisamment. L'enquête a été faite sur 130 000 personnes, mais seules 25 000 dans un premier temps ont pu bénéficier d'un test. Je vous rappelle que l'enquête a été faite au mois de mai, où la disponibilité des tests était très restreinte. Donc c'est une population très hétérogène, les autres professions essentielles. Donc à ce jour, on ne peut pas encore donner de données sur la prévalence, mais ce qu'on montre bien dans l'enquête, c'est que ces catégories de population-là cumulent un certain nombre de facteurs défavorables qui renvoient à la densité de la commune dans laquelle ils résident, au nombre de personnes qui vivent dans le logement, donc des logements surpeuplés au sens de l'INSEE, et puis d'avoir travaillé à l'extérieur. Donc on voit vraiment un effet cumulatif des inégalités sociales en termes aussi bien d'exposition potentielle au virus que d'impact de l'épidémie sur la situation.
Il y a des informations sur la situation des immigrés ou des personnes d'origine immigrée. Une précision, vous avez pu obtenir donc des statistiques ethniques pour faire ce travail?
Alors, appelez ça si vous voulez des statistiques ethniques,
c'est l'expression consacrée.
Ethno-raciales, c'est-à-dire que ce sont des statistiques dont on a pas encore beaucoup l'habitude en France, mais qui sont très importantes parce que c'est des marqueurs sociaux très importants notamment en matière de discrimination, comme l'a montré récemment une grande enquête du Défenseur des droits et les travaux de l'INED avant. Oui, on a pu, on a réussi à avoir des données sur ces informations, qui sont d'ailleurs des données qui sont collectées dans les enquêtes de l'INSEE depuis 2003. Et c'est extrêmement important parce que l'enquête montre que les catégories des personnes immigrées d'origine non européenne, de première ou de deuxième génération, sont beaucoup plus touchées, ont des taux de prévalence à l'épidémie beaucoup plus importants, surtout les premières générations
d'immigrés. Dans quelle proportion à peu près ?
Alors là, vous,
Vous n'avez pas le chiffre
précis en tête.
C'est
pratiquement du simple double. Je crois que c'est de 9,6 à moins de 4. Enfin, c'est presque du simple double. Mais je dirais que cette surexposition objective des personnes immigrées d'origine non européenne, en fait, on se rend compte qu'elle a des causes structurelles, c'est-à-dire
c'est qu'elle s'explique. Vous dites, le risque, c'est d'essentialiser ces résultats, c'est-à-dire de considérer que les immigrés, en quelque sorte, sont responsables de la propagation du virus. Mais vous dites, si l'on tient compte de la structure professionnelle, des revenus, des conditions de logement, il n'y a plus d'effets immigrés.
Alors, oui, c'est effectivement ce qu'on a dit. Ce qu'on voulait dire par là, c'est que la surexposition des immigrés est liée à des conditions de vie défavorables et elle n'est pas liée au fait qu'ils se protégeraient moins que les autres groupes de la population.
Ouais, ça vous insistez sur ce point, qu'ils respectent autant toutes les précautions.
Tout à fait. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est clairement un effet structurel. C'est-à-dire qu'un des résultats pour moi majeurs de cette étude et qu'on a pu mettre en évidence parce qu'on a fait en même temps une approche sociologique et une approche épidémiologique, c'est l'importance des facteurs structurels dans la diffusion de l'épidémie. C'est les conditions de vie, où est-ce que vous vivez, à combien de personnes, quel type de travail vous faites, est-ce que vous êtes amené à sortir. Ce sont des facteurs clés pour expliquer l'exposition au virus.
Avec notamment, mais on a terminé un large développement sur les logements surpeuplés. Merci Nathalie Bajos,
merci.
Bonne journée.